Chapitre 28. Yuna remercie Eric et le dépose devant sa maison à Gamla Hemsöde. Puis il retourne à Stockholm, gare sa voiture dans le garage sous la résidence de Corner House, prend l'ascenseur jusqu'à son appartement et appelle Valeria. « Chérie ?» répond-elle. « Ça me fait du bien d'entendre ta voix. Comment tu vas ?»«
Ça va. » Ma mère passe son temps à regarder par la fenêtre, et moi je m'occupe de tous les proches qui passent à porter de la nourriture et des fleurs.
Tu te sens comment? Mon père était très vieux, tu sais.
Oui, mais quand même.
On a beau être adulte et savoir que ça va arriver, perdre un parent reste une épreuve difficile.
C'est vrai. Je réfléchis beaucoup.
Je pleure parfois, dit-elle.
Tu me manques.
Tu ne manges pas ton chocolat, hein?
J'ai commencé à le regarder.
Tu ne pourrais pas venir ici?
Demande-t-elle. J'aurais tellement aimé.
Viens chercher ton miel,
murmure-t-elle. Il continue à parler jusqu'à ce que des coups retentissent à la porte de la mère de Valeria et qu'elle doive aller ouvrir. Yuna sourit encore lorsqu'il se rend dans la cuisine et pose son téléphone sur le plan de travail. Il se prépare un plat de pâtes avec du salami italien, dresse la petite table près de la baie vitrée, s'assied et dîne en regardant dehors. Sous le ciel du nord, la ville ressemble à un lit de braise scintillant dans l'obscurité. Il réfléchit à l'enquête. Ils ont enfin une première avancée. C'est comme si une porte s'était soudain déverrouillée. Hugo s'est révélé très réceptif à l'hypnose, sombrant presque aussitôt dans une transe profonde. Eric a ouvert la voie avec douceur, et le garçon s'y est engouffré sans résistance comme de l'eau s'écoulant naturellement dans une rigole. Quand Hugo a repris ses esprits, ses lèvres étaient blanches et il était en nage. Il fixait le vide en répétant « plus jamais, plus jamais ». Eric n'avait pas anticipé la puissance libérée par le jeune homme. Cette intensité est extrêmement rare, et durant sa carrière, il n'avait croisé que deux patients proches de ce stade. Tout au long de la séance, il n'a cessé d'encourager Hugo à voir au-delà du rêve, et à la fin, le garçon leur a donné une première description de l'agresseur. Une femme blonde, en imperméable brillant, est entrée dans la caravane avec une hache dissimulée derrière son dos. Yuna pose ses couverts et pense à l'enquête, à tout le travail qu'ils ont dû abattre avant d'obtenir cette première avancée.
« Tu n'as pas été trop mauvais. » se félicite-t-il.
Il tend la main, prend la première pièce en chocolat dans la boîte, la fourre dans sa bouche et ferme les yeux un instant. Après l'hypnose, Hugo tremblait de tout son corps et se sentait si mal que Lars Grint lui a administré 50 mg d'Antarax pour calmer son angoisse. Pendant que les médecins tentaient d'apaiser Hugo, Yuna est sortie dans le couloir de la clinique et a appelé Erickson. Parmi toutes les traces biologiques recueillies dans la caravane, il y avait un long cheveu blond sans racines.
« Et tu veux bien sûr les résultats pour avant-hier ?» a plaisanté Erickson.
« Si possible, » a répondu Yuna.
« Je vais essayer. Mais tu sais comment c'est ?»
Le Centre national de criminalistique doit analyser environ 13 000 échantillons d'ADN par an et ses ressources ne suffisent pas à les traiter rapidement. À cause de lui, Erickson a déjà largement dépassé son quota de demandes prioritaires. Yuna pense aux deux premiers meurtres planifiés. Son sentiment de se retrouver une fois de plus dans l'ombre d'un tueur en série s'intensifie. Ce type de tueur est rare, mais moins qu'on le croit. Seule une partie d'entre eux est identifiée et arrêtée. Parmi les 25 000 personnes portées disparues chaque année en Suède, la plupart réapparaissent saines et sauves. Mais près de 3 000 sont retrouvées mortes. Et 30 ont disparu à jamais. Même si toutes ne sont pas victimes de crimes, cela ouvre la possibilité d'une poignée de tueurs en série non identifiés. Il existe des zones d'ombre, des angles morts et des liens que personne ne veut ou n'ose envisager. La majorité de ces tueurs opèrent à l'abri des conflits armés. Ces soldats accomplissent à peu près ce qu'on attend d'eux en situation de combat, mais leurs motivations sont de nature pathologique. Certains se dissimulent au sein des collectifs criminels et des gangs. D'autres, tout aussi invisibles, se déplacent comme des anges de la mort dans les couloirs des services néonatales ou des soins palliatifs. D'autres encore sont protégés par des communautés religieuses. Et les tueurs en série qui choisissent leurs victimes parmi les plus marginalisés, les enfants des rues, les sans-abri, les toxicomanes, les prostituées, les réfugiés, échappent souvent au radar de la justice. Ce n'est que lorsque les victimes appartiennent à une certaine couche de la société, lorsque les circonstances ne peuvent plus être ignorées, que le coupable est remarqué et que le qualificatif de tueur en série est utilisé. Avec encore dans la bouche l'amertume mêlée à la douceur du chocolat, Yona se demande s'il n'est pas lui aussi un tueur en série. D'après certains critères, il l'est. Mais pas selon le plus important d'entre eux. La motivation. Dans son sillage, il a laissé une longue traînée de mort. Il entend presque sans cesse dans son dos le froissement des plumes et les croassements rauques des corbeaux. Mais ça n'a jamais été une fin en soi, seulement le prix à payer. Il doit y croire. Pour lui, peu importe le choix des victimes, le cadre dans lequel ces tueurs agissent ou ce qu'ils prétendent justifier. Le fait est qu'ils se ressemblent beaucoup. Personne ne peut créer la vie de ses mains, mais le tueur en série comble son vide intérieur avec la mort des autres. Les motivations varient. Punir les pécheurs, purifier la société, libérer les victimes de leurs souffrances, ou encore utiliser le crime comme un instrument pour accéder à l'argent ou au sexe. Tous sont dénués d'empathie. Yuna est persuadé que le tueur qu'il traque se croit motivé par l'argent et considère les meurtres comme un moyen de se débarrasser des témoins. Mais en réalité, ce sont les meurtres eux-mêmes qui sont au cœur de l'affaire. L'explication financière est un faux prétexte. Elle lui permet de se trouver une justification, d'avoir l'illusion de se comprendre et de repousser la folie qui le guette.